L'Iran est devenu officiellement membre de l'UEE. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a signé une loi ratifiant le protocole de zone de libre-échange entre l'UEE et l'Iran. Le protocole a été approuvé à Téhéran le 14 mars 2022. Le président russe Vladimir Poutine a approuvé la loi autorisant la ratification du protocole à l'accord provisoire signé le 17 mai 2018 pour l'établissement de la zone de libre-échange entre l'Union économique eurasienne, UEE, et l'Iran. L'accord provisoire en vigueur depuis octobre 2019 prévoit des conditions d'importation préférentielles pour une liste limitée de marchandises. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a affirmé jeudi 14 juillet que l'Iran était le partenaire fiable de la Russie et Moscou avait l'intention d'intensifier la coopération avec Téhéran. Nous considérons l'Iran comme un partenaire fiable, un pays partageant les mêmes idées dans le contexte des changements globaux associés à la formation d'un ordre mondial multipolaire et aux tentatives de l'Occident de résister par tous les moyens à ce processus objectif, a déclaré Bogdanov lors d'une conférence sur les relations russo-iraniennes. Le diplomate russe a souligné qu'une coopération accrue entre Moscou et Téhéran serait la meilleure réponse aux défis imposée par l'Occident. Outre les efforts visant à renforcer les relations commerciales, Téhéran et Moscou cherchent également à accroître autant que possible les coopérations militaires et économiques, ce qui a suscité la colère sans précédent dans la Maison-Blanche. Le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré hier jeudi 14 juillet que l'augmentation de la coopération militaire irano-russe était due à des sanctions américaines contre les deux pays. Les propos de John Kirby peuvent être interprétés comme un aveu cuisant des Américains dans l'échec de leur politique de pression maximale et ce milieu de changement de l'équation de force dans le monde. De toute évidence, les Iraniens ont la capacité de production nationale. Je ne connais pas les paramètres de l'accord conclu par M. Poutine. Je ne peux pas parler avec précision de la capacité de l'Iran à répondre à cette exigence, a déclaré M. Kirby. Nous connaissons la capacité de la Russie à reconstituer ses stocks de munitions et maintenant les drones à la disposition de l'armée russe sont limités en raison de la pression que le reste du monde exerce sur M. Poutine, a ajouté M. Kirby. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Le président serbe déclare que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Texte par Andrew Anglin. Je n'aime pas Vučić à cause de son incapacité à s'engager comme pro-russe, s'identifiant plutôt comme notre. Cependant, il mérite un grand crédit. Pour avoir été le premier chef d'État à dire en public ce que je dis depuis mars, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé, écrit Andrew Anglin avant de continuer. Comme suit, le fait que les États-Unis financent l'armée ukrainienne pour combattre la Russie signifie que les États-Unis sont en guerre avec la Russie. Chaque pays sur Terre prend parti entre les deux équipes. Le conflit en Ukraine est en fait déjà une guerre mondiale, étant donné que l'Occident combat la Russie via ses mandataires à Kiev, a déclaré mercredi le président serbe Aleksandar Vučić aux médias locaux. Nous devons comprendre qu'au milieu de la guerre mondiale, car tous les discours selon lesquels il s'agit d'une guerre régionale ou locale doivent être abandonnés, l'ensemble du monde occidental se bat contre la Russie via les Ukrainiens. C'est un conflit mondial, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Pink TV. Et si nous sommes honnêtes, nous ajouterons également que c'est la Chine qui permet à la Russie de maintenir son économie. C'est donc l'Ouest contre l'Est. Le président a déclaré que la guerre mondiale en cours est ce qui l'inquiète le plus et selon lui, elle ne fera qu'empirer. Il a également ajouté que le conflit en Ukraine fait des ravages dans les Balkans, réaffirmant que la Serbie fera de son mieux pour maintenir la paix dans la région. En outre, Vučić pense qu'après que la Russie aura gagné un peu plus de terrain dans l'est de l'Ukraine, le président Vladimir Poutine approchera l'Occident avec une certaine proposition. Je sais ce qui nous attend. Dès que Vladimir Poutine aura fait son travail à Sévierske, que Bakhmout et Soledar, après avoir atteint la deuxième ligne Slaviansk, Kramatorsk, Advivka, il présentera une proposition. Et les Occidentaux ne l'acceptent pas. Et ils ne l'accepteront pas. L'enfer se déchaînera. A-t-il prédit, sans donner de détails, sur cette initiative? Vučić étant un lecteur du Daily Stormer a confirmé maintenant. Je me sens mal de m'être moqué de lui, même si je suis sûr que cela ne doit pas le déranger à ce stade. Le président serbe a également rappelé que son pays entretient des relations étroites avec la Russie et la Chine, ajoutant que la poursuite de telles politiques n'est pas facile pour Belgrade en ce moment. Et mon pote, écoute bien, la vie n'est pas facile. Elle n'est pas censée être facile. La vie est censée être une souffrance sans fin. De quoi pensez-vous que Jésus parlait? On nous a promis que deux choses dans cette vie, la souffrance et la mort. Et si vous vous attendiez à quelque chose de plus que cela, alors vous allez être déçus. Aux dernières nouvelles, les États-Unis n'imposeront pas de sanctions à l'Inde pour l'achat de S-400 russes. Les USA n'ont pas l'intention d'imposer des sanctions à l'Inde pour l'achat de systèmes russes de défense aérienne S-400, bien que les États-Unis d'Amérique aient précédemment annoncé qu'ils considéreraient l'achat par l'Inde de systèmes de missiles anti-aériens russes S-400 comme une violation directe des restrictions précédemment établies sur l'acquisition d'armes russes. On a appris que Washington refusait une telle mesure. Cette décision a plutôt irrité la Turquie, contre laquelle ne seulement des restrictions ont été imposées, mais Ankara a également perdu l'opportunité de participer au programme de chasse F-35 de cinquième génération. La Chambre des représentants du Congrès américain a adopté un amendement prévoyant une exemption spéciale des sanctions de la CATSA qui devrait être introduite après que l'Inde aura acheté le système de défense aérienne S-400 à la Russie. Les sanctions de la CATSA contre la Turquie ne s'appliqueront pas à l'Inde. Le refus d'imposer des sanctions à l'Inde confirme en outre que les sanctions de la CATSA contre la Turquie n'ont jamais été liées au S-400. L'objectif principal de ces sanctions est le désir des États-Unis de subordonner la sécurité turque à sa discrétion, selon les médias turcs. Les experts estiment que les États-Unis ont pris une telle décision en raison des contre-sanctions attendues de l'Inde, ce qui pourrait gravement affecter les intérêts des États-Unis. Cependant, dans ce cas, il faut également s'attendre à une réaction assez dure d'Ankara, qui pourrait, dit-on, également faire pression sur les États-Unis, notamment dans le contexte des intentions de la Suède et de la Finlande d'adhérer à l'OTAN. Les experts estiment que l'impossibilité d'imposer des sanctions contre l'Inde pourrait conduire à une demande d'armes russes. La Russie est en train de mettre au point une arme laser pour aveugler définitivement les satellites espions survolant son territoire selon OPEX 360. L'information n'a pas été livrée par une agence de presse étatique russe, mais par la revue en ligne spécialisée des Space Review, qui a épluché des documents officiels publiés en Russie, comme des appels d'offres et des avis d'attribution de marché pour le besoin d'une longue enquête qui a permis d'arriver à la conclusion que Moscou est sur le point de se doter d'une nouvelle arme anti-satellite reposant sur des impulsions laser et la télédétection par laser LIDAR Light Detection and Ranging. Aveugler des satellites d'observation au moyen d'un laser n'est pas une pratique nouvelle. En revanche, les rendre inopérables définitivement par un tel procédé serait inédit. Et c'est justement ce que l'arme que la Russie est en train de construire serait capable de faire, selon des Space Review. Eh bien, que des traces de travaux préliminaires menés plusieurs années plus tôt ont pu être retrouvées, ce programme appelé Kalina a été lancé en 2011 avec un premier contrat attribué par le ministère russe de la Défense à la Société scientifique et de production de systèmes d'instrumentation de précision, NPK-SPP. établie à Moscou. Cette dernière a été désignée pour être le maître d'œuvre pour la mise au point d'un localisateur optique laser, autrement dit le LIDAR, devant être installé sur un site relevant du centre spatial de Krona, lequel abrite près de Zelen. Dans le sud de la Russie, le radiotélescope Raton 600. Ce dispositif conçu pour la guerre électro-optique, selon les documents officiels russes, repose sur un radar désigné 40ZH-6, principalement destiné à lui fournir des données de trajectoire précises pour pointer ses télescopes sur des cibles d'intérêt. Un LIDAR pour photographier le satellite cible et mesure avec une extrême précision l'altitude à laquelle il évolue. Des télescopes, un système d'optique adaptatif et un puissant système laser à semi-conducteur censé envoyer des impulsions laser si lumineuses qu'elles sont de nature à endommager durablement des capteurs optiques. Ce dernier aurait été conçu par l'Université des technologies de l'information, de la mécanique et de l'optique ITMO de Saint-Pétersbourg. Ayant subi plusieurs retards depuis son lancement, ce programme est désormais en stade avancé d'après de récentes images obtenues via Google Earth. La construction des principales infrastructures sur lesquelles il repose étant sur le point d'être achevée. Le bâtiment du télescope et le tunnel le reliant au bâtiment du LIDAR sont en place, mais il est impossible de dire combien de matériel à l'intérieur a été installé, relève The Space Review. Évidemment, nul ne sait si Kalina va fonctionner, dit OPEX. Mais si tel est le cas, alors la Russie aura le moyen de soustraire certaines de ses activités militaires à la curiosité de ses compétiteurs, à commencer par les États-Unis qui exploitent notamment les satellites de type KH-11 pour des missions de reconnaissance optique. Et cela à l'heure où Moscou a quitté, comme Washington, le traité ciel ouvert qui autorise des vols d'observation au-dessus du territoire des États parties. Mais on n'en est pas encore là. Pékin, Moscou et Téhéran ont l'intention de faire une démonstration de force pour les États-Unis dans leur arrière-cour. Les trois pays comptent organiser des manœuvres navales conjointes au large de l'Amérique latine et dans les Caraïbes début août. D'après les experts, cela témoigne notamment du fait que certains pays latino-américains ont l'intention de former une coalition militaire contre les États-Unis. L'intention des puissances d'organiser des exercices conjoints en Amérique latine a été rapportée en milieu de semaine dernière. Comme l'écrit le site du journalisme politique libre The Washington Free Beacon, ces manœuvres s'appellent Sniper Frontier. C'est le Venezuela qui accueillera les exercices début août, alors que ce pays entretient des relations très compliquées avec Washington, la Chine, la Russie et l'Iran. Enverront leurs forces militaires et navires vers les côtes latino-américaines. D'après le Washington Free Beacon, les manœuvres à venir indiquent clairement que certains pays de l'Amérique latine comptent constituer une alliance militaire ou une coalition militaire contre les États-Unis. Comme l'a déclaré au Washington Free Beacon Joseph Humir, spécialiste et expert en matière de sécurité pendant les exercices à venir, sur invitation du Venezuela, la Russie avec ses alliés, l'Iran et la Chine, ont l'intention de montrer dans l'hémisphère ouest une force grandiose jamais vue. D'après l'expert, après ces exercices, les États-Unis risquent même de perdre leur influence traditionnelle en Amérique latine. Il convient de rappeler que Moscou, Téhéran et Pékin avaient déjà organisé trois fois des manœuvres militaires conjointes, notamment les exercices Marine Security Belt 2022 qui se sont déroulés dans le nord de l'océan Indien. Selon les observateurs, lors de ces exercices, les participants ont montré leur capacité d'interagir dans l'accomplissement de différentes missions tactiques. Ils se sont entraînés notamment à secourir un navire en feu, à libérer un navire capturé, à tirer sur des cibles concrètes, à tirer de nuit sur des cibles aériennes et d'autres missions tactiques et opérationnelles. À noter qu'à l'époque, les médias américains avaient perçu les exercices trilatéraux Marine Security Belt 2022 comme un puissant signal pour les États-Unis. En ce qui concerne les exercices à venir dans les Caraïbes, la revue américaine The Washington Times les considère comme les plus importants jamais organisés avec la participation de navires chinois, russes et iraniens. Il s'agit de premières manœuvres militaires auxquelles l'Iran participe depuis son invitation officielle en septembre 2021 à rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, l'une des plus puissantes alliances du continent eurasiatique, dont l'objectif consiste à assurer la sécurité globale.